Amnesty International est un mouvement mondial réunissant plus de 7 millions de personnes qui agissent pour le respect des droits fondamentaux de chaque individu. Nous agissons dans le cadre de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Solidarité, impartialité, indépendance sont nos grands principes.
Rendez-vous avec Amnesty, aujourd'hui avec Dominique Duranton et Sabine Kiefer. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va bien.
D'ailleurs, ça va bien et je crois que vous avez quelques victoires dont vous voulez nous faire part.
Et oui, je vais vous lire la petite rétrospective des victoires de 2019, donc qui sont parues dans notre petit mensuel « Mon actu engagé ». Tandis qu'aux quatre coins de la planète, des millions de citoyens continuent de battre le pavé pour défendre leurs droits en 2019, les militants d'Amnesty International ont continué à se mobiliser pour faire avancer la cause des droits humains partout dans le monde. Des efforts qui ont été tout sauf vains. 2019 aura tout d'abord permis d'obtenir la libération de personnes défendues et soutenues sans relâche au cours des dernières années, notamment Ahmed H. en Hongrie, dont nous avons parlé d'ailleurs lors du dernier rendez-vous, Oleg Sentsov en Russie, lui aussi on en avait parlé, Iman al-Najjan, Aziza al-Youssef et Rukaya al-Mareb en Arabie Saoudite, Evelyne Hernandez au Salvador, Ajar Rezouni au Maroc, Behran Ejias en Azerbaïdjan.
2019 restera également marqué par les engagements renouvelés de Renault afin d'améliorer les conditions d'extraction de cobalt dans ses mines de République démocratique du Congo, l'adoption par l'ONU d'une résolution visant à interdire le commerce des équipements de torture et le renoncement de la France à faire don de 6 navires aux gardes-côtes libyens.
Alors, dans le même ordre d'idées, on peut revenir sur 10 jours pour signer, puisque c'est un événement mondial, mais qui est porté par le groupe En Creuse. Et donc, cette année, nous avons eu plus de 1550 signatures. Et un grand bravo à la médiathèque de Royer, qui a à elle seule collecté plus de 500 signatures.
Sabine, aujourd'hui, vous voulez nous parler des multinationales et de leurs responsabilités, ainsi que de la responsabilité des filiales, ou plutôt la responsabilité des multinationales sur le fait qu'elles soient responsables de ce que font leurs filiales, qui elles-mêmes devraient être responsables.
Voilà, c'est un peu technique, un peu compliqué, donc j'ai essayé d'éclaircir un peu ce sujet. J'ai travaillé avec un article des Échos des Peuples Solidaires, qui est sorti là dernièrement, et bien sûr le site Amnesty France.
Qu'est-ce que c'est que les Échos des Peuples Solidaires ?
Action Aid pour les Peuples Solidaires. Et c'est une ONG qui se bat dans le monde entier pour le respect des droits, surtout des travailleurs, un peu partout par rapport à la violation des droits humains, partout dans le monde, dans les entreprises.
D'accord. Sabine, vous me disiez que c'était une mine d'informations et donc que vous l'avez utilisée
pour essayer de simplifier au maximum tout ce qui tourne autour des multinationales.
Nous vous écoutons.
D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une multinationale, voire un groupe ou une entreprise transnationale ? D'un point de vue juridique, ça n'existe pas. Et en se plaçant dans les angles morts du droit national et international, les entreprises comme Samsung, Auchan, peuvent polluer et exploiter en toute impunité. Alors nous, on voit un tout cohérent quand on entend multinationale, on se dit c'est cohérent, enfin voilà. Mais au niveau du droit, c'est une nébuleuse. C'est encore une fois une histoire d'opacité. Elles sont juste reliées par des droits de propriété et des contrats. Alors, c'est pourquoi il est très difficile de poursuivre une société mère lorsqu'une de ses filiales met en danger son personnel à l'étranger, ou d'établir la responsabilité d'une entreprise donneuse d'ordre dans les abus commis par ses fournisseurs ou ses sous-traitants.
Alors là, très, très rapidement, ça m'évoque par exemple des drames qui ont eu lieu dans l'industrie textile, mais Mais je crois que vous avez d'autres exemples à nous proposer.
Malheureusement, beaucoup d'exemples. En 1984, il y a eu l'affaire Bhopal. Là, actuellement, il y a le problème de l'extraction du cobalt en République démocratique du Congo. Et je me suis intéressée à l'affaire Shell parce que c'est en train de bouger à ce niveau-là.
Qu'est-ce que c'est que cette affaire Shell ?
Shell a exploité le pétrole dans le delta du Niger, ce qui a provoqué énormément de pollution. Les personnes qui habitent ce secteur-là, c'est le peuple des Ogoni, leurs terres ont été ravagées. Donc ils ont voulu se mobiliser pour protester pacifiquement. Et en fait, l'État nigérian a lancé une campagne de violence à l'encontre des Ogoni. Et le comportement de Shell a encouragé et même parfois facilité les atrocités commises par les forces de sécurité nigériennes. Shell était bien conscient qu'il y aurait certainement des victimes de violence, mais il a continué à demander aux forces de sécurité de gérer les manifestations communautaires. Il a fourni un appui logistique à l'armée et à la police, et il a souligné à plusieurs reprises auprès des autorités nigériennes combien le pays dépendait financièrement du pétrole, et il a aussi versé de l'argent aux forces de sécurité. Shell a été attaqué par des femmes suite à l'arrestation et l'exécution de leurs époux.
Donc attaqué en justice.
Attaqué en justice. Et là, en mai 2019, un tribunal hollandais, a rendu un jugement dans l'affaire inculpant Shell. Donc les trois femmes, il y a Esther Kiobel surtout et trois autres femmes qui accusent le géant pétrolier d'être impliqué dans l'arrestation. Le fait que le tribunal se dise, il s'est reconnu compétent pour juger cette affaire, c'est une grande avancée quand même, puisque là, ils vont pouvoir travailler en fonction des droits hollandais, quoi. Et le tribunal a aussi statué sur le fait que Shell devait remettre tous les documents confidentiels qu'il a aux avocats des plaignantes. Donc ils auront aussi la possibilité ainsi d'interroger les témoins. Après, une autre avancée, il y a eu également la tragédie en avril 2013 du Rana Plaza. C'est l'immeuble qui abritait plusieurs usines textiles qui s'est effondré au Bangladesh. Alors on a retrouvé dans les décombres de nombreuses étiquettes de grandes marques européennes et françaises pour lesquelles ces sous-traitants travaillaient, notamment Carrefour et Auchan, mais qui ont toujours nié leur relation avec ces sous-traitants. Je voulais illustrer un peu les avancées, quand même le positif de Kalpona Akter. C'est une ouvrière qui a pris tous les risques pour faire exister le droit du travail dans la confection suite à ce qui s'est passé même avant le Rana Plaza. On l'appelle celle qui se lève et qui parle haut. Elle a fondé en 2000 le Centre de solidarité des travailleurs du Bangladesh. Il y a plus de 150 anciennes de prêt-à-porter européennes et asiatiques qui ont signé l'accord auquel Kalpona a travaillé. Elle a élaboré un accord sur la sécurité incendie et sur la sécurité des bâtiments au Bangladesh. L'accord prévoit la création d'une structure indépendante qui mènera des inspections et ordonnera des réparations et des rénovations. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que les marques signataires se sont engagées à rester dans le pays pendant la durée de l'accord, à savoir pendant 5 ans. Alors, bon, ça c'est quand même une avancée, ça veut dire aussi que les gens peuvent se battre. Elle continue, Kalpona, à se battre pour le droit et le respect des travailleurs, parce que tout est loin d'être réglé. Et elle multiplie les tournées à l'étranger aussi pour nous sensibiliser, nous informer et faire pression sur les marques. Il faut être conscient qu'en matière de violation des droits humains, la majorité de ces violations ont lieu dans des pays où le système judiciaire est affaibli, corrompu ou corruptible. Et lorsque les victimes elles tentent de se défendre, de s'organiser ou de se faire représenter par des syndicats ou des ONG, elles subissent des pressions et des menaces de la part de leur employeur ou des autorités locales. Et c'est cela pour dire que c'est important d'externaliser le problème et que les poursuites aient lieu dans les pays où les sociétés mères ou donneuses d'ordre ont leur siège, donc Shell effectivement en Hollande. Il faut encore une fois, comme pour les armes, un encadrement contraignant par le droit. Alors, en mars 2017, une autre bonne nouvelle, à l'issue de plusieurs années quand même de plaidoyer et de mobilisation citoyenne, la France a promulgué une loi historique sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre. Alors, cette loi vise à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l'environnement. Elle s'applique à toute société établie en France qui emploie au moins 5000 personnes ou au moins 10 000 personnes en France et à l'étranger. Donc, ça veut dire que les entreprises, elles ont l'obligation légale d'établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance qui doit être rendu public et il doit y avoir un rapport annuel. Et cette loi permet aussi à toute personne justifiant un intérêt à agir, comme par exemple une ONG comme Amnesty International, de saisir la justice française lorsqu'une entreprise n'est pas réglo, ne respecte pas ce plan de vigilance. Ça concerne la France. Donc la France, à ce niveau-là, est exemplaire. Mais il faudrait, pour que ce soit vraiment efficace, il faudrait un traité international qui soit contraignant, que toutes les entreprises soient soumises à des sanctions où qu'elles soient dans le monde. J'ai un peu récapitulé ce que Amnesty International demande. Amnesty demande que les États adoptent au niveau international, ainsi que dans leur législation nationale, les cadres juridiques contraignants pour faire pression sur les entreprises, que les personnes dont les droits sont menacés ou bafoués par des activités de multinationales puissent obtenir justice et réparation. Elles doivent pouvoir saisir la justice des pays d'origine des multinationales si cela devient nécessaire. Donc là, on revient à le fait d'externaliser le jugement. Il faut que les entreprises prennent des engagements concrets pour ne plus utiliser de matières premières qui alimentent les violences. Cobalt. Elles doivent assurer la traçabilité de leurs ressources minières et cesser tout commerce douteux. Les populations concernées par des projets industriels, qu'elles puissent au minimum être informées en amont, voire prendre part aux décisions qui affecteront leur vie. Et si un relogement est nécessaire, elles doivent être dédommagées.
Où est-ce qu'on signe ?
Là, non, il n'y a pas de pétition spécifique en ce moment, mais disons que il y a, dans toutes les pétitions à l'heure actuelle, et surtout, lors des 10 jours pour signer, il y a toujours deux ou trois personnes qui défendent les droits des peuples et qui défendent tous ces droits
qui défendent leur terre.
Sabine, qui défendent leur terre contre des multinationales.
Parce qu'on les exploite quand même énormément.
Oui. Alors donc, pas de pétition sur cette question de la responsabilité des entreprises mères dans les exactions de leurs filiales à l'étranger.
Mais disons qu'il y a un gros travail qui se fait, je pense, au niveau international. Là, il faut vraiment qu'au niveau international, les pays puissent se mettre d'accord.
Oui, mais on rappelle quand même que du coup... au Nigeria, 4 femmes ont réussi à traduire Shell
en justice,
ce qui est déjà un énorme pas en avant quand on sait qu'il y a eu d'autres mobilisations de citoyens face à des multinationales qui se sont terminées de façon dramatique lorsque l'État a décidé d'en tuer tout simplement.
Et donc, si je peux ajouter quelque chose dans le même ordre d'idées, c'est que c'est aussi, là, on touche du doigt un des aspects du travail d'Amnesty International qui collabore à la mise en place de règles internationales. Alors, par exemple, Amnesty est beaucoup intervenu pour la mise en place de la Cour pénale internationale, pour le traité sur le commerce des armes. Moi, je me rappelle, ça a été pendant des années et des années où on appelait à pétition, on avait même des t-shirts contrôle armes pour arriver à ce traité. Pour la Convention internationale, par exemple, des droits de l'enfant. Là, pour la protection des populations, enfin des travailleurs. Et c'est peut-être tout un travail qui est ignoré de la part du public. On nous connaît mieux on signe une pétition pour venir en aide à une personne. Mais tout ce travail qui est un travail de fond, et on ne dit pas lobbying en Amnesty, on dit de plaidoyer, parce qu'on a aussi des représentants à l'ONU. On a des représentants et on est très souvent beaucoup approchés par des députés quand ils rédigent des lois. Et ça, c'est tout un travail qu'on ne connaît pas peut-être d'Amnesty International, mais qui est aussi très, très important.
Mais n'ayons pas peur du mot lobbying. Je pense que dans le monde dans lequel on vit, c'est important qu'il y ait des lobbies qui soient en quelque sorte des contre-lobbies.
peut-être, mais donc nous, c'est plaidoyer. Plaidoyer parce que la différence, si je me rappelle bien, on nous avait expliqué, lobbying, souvent, c'est avec un échange de quelque chose. Il y a un échange d'argent, il y a un échange d'élections, etc. Alors que dans plaidoyer, on plaide la cause sans demander aucun échange, quel qu'il soit.
Pas pour plaidoyer. Eh bien, on passe tout de suite à l'agenda. Le dimanche 29 mars, Amnesty vous propose un rendez-vous musical.
Il s'agit d'un concert, c'est la chorale de Solignac qui viendra soutenir les actions d'Amnesty Creuse au Donzeil vers 16h à peu près. Et c'est dans le cadre de la fête de printemps en fait.
Et enfin, toute l'année.
Toute l'année, eh bien, la médiathèque de Royer nous offre un espace dédié. Donc espace dédié à Amnesty International, où régulièrement eh bien, les sujets seront changés. Il y aura un petit peu une rotation des affiches, des sujets abordés par Amnesty International.
Donc c'est un espace de documentation avec éventuellement des livres, des DVD, etc.
Voilà. Et puis avec trois points forts dans l'année. Donc cette année, ce sera le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Ce sera au mois d'octobre, la journée contre la misère. Et puis bien sûr, nos 10 jours pour signer où la médiathèque est si efficace.
On rappelle donc les 500 signatures pour la campagne précédente à la médiathèque de Royer de Vassivière. Merci à eux.
Voilà. Alors peut-être pour terminer, un contact, surtout que l'adresse du groupe Creuse a changé. Donc si vous voulez nous contacter par internet, c'est creuse@amnestyfrance.fr.
Merci beaucoup Dominique Duranton et Sabine Kiefer d'être venues jusque Royer de Vassivière pour nous proposer les chroniques d'Amnesty.
Merci de nous avoir accueillis.
Oui, voilà, merci beaucoup à Radio Vassivière de nous accueillir et de nous donner la parole.
À la prochaine fois.
À la prochaine fois. Oui.